quoi la première BD sur laquelle tu as flashé?
Alors, je pense que c'était là où j'ai vraiment eu une histoire d'amour. C'était avec Franquin, hein. C'est Gaston Lagaffe, quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Et voilà, c'est cet univers que j'ai toujours, que je trouve toujours extraordinaire. Un univers que je trouve profondément rassurant, en fait, parce que c'est toujours un peu la même chose, mais sans être jamais la même chose. C'est drôle, les personnages sont au fond, personne n'est méchant. Même Lontarin n'est pas méchant. Voilà, donc ça, quand je me sens pas bien, je vais lire du Gaston Lagaffe. Et en plus, le trait de Franquin, la puissance du mouvement est tellement magnifique, ça me fait du bien.
Tu as mis longtemps à te faire de la BD. J'ai lu que donc tu as enseigné très longtemps avant de te mettre à faire des BD. Est-ce qu'il y a plein de projets cachés sous un autre nom et autre chose, ou c'est arrivé tard, et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer?
La bande dessinée, c'était un art que j'ai toujours aimé depuis l'enfance. Et donc, je n'ai jamais perdu de vue. J'ai toujours dessiné. J'ai surtout toujours écrit. Et pendant très longtemps, j'avais plutôt envie d'écrire des romans et des nouvelles. Et jusqu'à ce que je me rende compte dans les années 2010 que, en fait, l'art que j'avais envie de faire, qui peut-être me correspondait le mieux, était la bande dessinée. Parce que ce mix d'images et de textes m'allait très bien. L'infini des possibles que permet cet art-là aussi me semblait... vraiment avec un grand potentiel. Et surtout, ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est que je vois mon travail en train d'avancer, alors qu'en littérature je me retrouvais avec une nébuleuse de textes sans visibilité, parce qu'un texte c'est des mots, quoi, hein, c'est pas, alors que des planches, quand elles sont dessinées, elles sont là sous les yeux, il y a quelque chose de rassurant, le projet avance. Et peut-être que mon côté, un petit côté obsessionnel, fait que j'ai envie de voir les choses avancer quand même. Et voilà, alors pourquoi je me suis mis à faire les albums si tard? Parce que je crois que j'ai pris mon temps, et puis le moment était venu de faire des projets qui ont intéressé des éditeurs en 2018, en fait. 2017-2018, et là maintenant, ça fait 7 ans que je me consacre à la bande dessinée, et que j'en suis très content, hein. C'est vraiment un art... magique, avec bien sûr des choses que j'ai découvertes, hein, tout le monde de la bande dessinée, mais aussi la solitude du créateur de bande dessinée, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément, mais c'est vrai que c'est un art très solitaire, forcément, on a tous les métiers en même temps, quoi. On est à la fois le créateur, l'illustrateur, voilà, et donc tout est entre nos mains.
Surtout que tu es à toutes les étapes, justement. Donc, tu fais le scénar, le dessin et la couleur. Donc, il n'y a vraiment aucun moment où c'est délégué. Est-ce que tu as dû prendre cette gymnastique-là, ou est-ce que tu l'avais quelque part? Est-ce que tu as dû prendre des cours? Enfin, comment est-ce que... Parce qu'on s'est dessiné, on s'est raconté des histoires. Ce n'est pas pour ça qu'on sait faire de la BD. C'est un médium, et ce qui se passe entre les cases est aussi très important. Donc,
hein. Oui, je crois moi, je suis autodidacte pour le graphisme, en tout cas. Ensuite, raconter des histoires aussi, parce qu'on n'enseigne pas ça. Enfin, on l'enseigne peu à l'université. En tout cas, moi, je ne l'ai pas appris. Mais j'ai évidemment fait des études de lettres, hein, de littérature. Mais ce n'est pas en littérature, ce n'est pas en lettres qu'on vous enseigne à écrire un roman, par exemple. Pas du tout. En revanche, le graphisme, c'est par l'admiration des autres, c'est par la lecture, par m'imprégner de ce que font les auteurs que j'admire, et puis en faisant, en fait, tout simplement, en faisant des livres, en essayant de faire des livres. Et puis le premier album qu'on fait, c'est extrêmement dur, c'est vraiment un cauchemar, en fait. et puis on finit par y arriver. Le deuxième aussi est terriblement c'est aussi une épreuve, c'est toujours une épreuve, en fait, hein, mais petit à petit une forme de métier semble entrer, et on se sent on a ses outils, quoi. On commence à posséder un peu la matière.
En parlant d'histoire, justement, tes premières histoires, la première était actuelle, puis t'es remonté un peu dans le temps, et là tu remontes vraiment très loin dans le temps. Est-ce que c'était comment, c'est quoi cette envie d'aller de plus en plus loin vers la source de l'humanité, j'ai envie de dire.
C'est vrai que les deux tomes de Mégafauna, c'était une histoire qui se déroulait au Moyen-Âge, mais qui en fait était une uchronie dans laquelle l'homme de Néandertal avait survécu 40 000 ans jusqu'à l'époque médiévale. Et là, dans cette bande dessinée qui sort au Lombard, au soir de grande ardeur, c'est cette fois-ci l'époque néolithique, la fin du néolithique, disons il y a 6 ou 7 000 ans, en Europe, dans le sud-est de l'Europe, et j'avais envie d'explorer cette époque historique parce que c'est l'époque d'un immense changement dans l'histoire de l'humanité que je trouve passionnant, qui est de plus en plus étudié en sciences, hein, dans les sciences, en histoire, préhistoire, en archéologie, parce que finalement c'est une période dans laquelle on n'a pas d'écrit, il n'y a pas d'écriture, ou à peine, enfin difficilement, ou alors c'est à la toute fin du néolithique, mais et on a des traces qu'il faut interpréter. Voilà. Et moi, j'avais envie de raconter une histoire qui se passe dans ce moment de transition d'une humanité qui va du chasseur-cueilleur qui est nomade, qui vit dans des tout petits groupes, et qui va vers, au contraire, l'élaboration de groupes plus importants, l'agriculture, l'élevage. Là, il y a la mise en place d'une hiérarchie, le fait de posséder des biens, etc. Et voilà, donc mon histoire se passe à ce moment-là, parce que je pense que c'était un arrière-plan dramatique favorable pour raconter une chouette histoire. Et cette histoire, c'est celle d'une servante qui vit dans une cité néolithique, comme il en est apparu au fil des millénaires. Une cité qui est entourée de vastes forêts, et de nomades, parce que l'humanité était toujours quand même en grande partie nomade. Elle l'est restée bien longtemps après. Finalement, nous sommes en majorité sédentaires depuis peu. Malgré tout, c'est pas un livre d'histoire, hein, pas du tout. J'ai voulu le préciser au début de mon livre, dans un petit prologue. C'est pas un livre d'histoire, c'est un conte avec un substrat, disons, historique, parce que, voilà, je parle de cette époque de grand changement néolithique, mais je ne me suis pas attaché aux détails archéologiques. Ma cité de Myril est imaginaire, mes personnages sont imaginaires. Je voulais surtout raconter un conte initiatique, celui de Manacor, qui découvre peu à peu que son monde idéal n'est peut-être pas celui dans lequel elle a été élevée, dans lequel elle est née, c'est-à-dire celui de la cité, mais qu'il est peut-être ailleurs, dans un retour au nomadisme.
Et tu parles de naissance de civilisation, du coup on ne peut pas passer à côté de ces différentes croyances qui ont une place très importante dans la BD. Et moi, les chuchoteurs, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des... Enfin, en tout cas, ça me fait penser à de la schizophrénie et à ce qu'on peut en faire. Enfin, parce qu'il y a la schizophrénie qu'on soigne, et puis il y a des gens qui font des syndicats d'écouteurs de voix et des choses comme ça, qui vivent avec. Enfin, donc, je trouvais que c'était assez intéressant. Est-ce que c'était quelque part dans ton inconscient quand tu as créé ces personnages de chuchoteurs ?
Probablement, c'est vrai que tous les personnages de Myril, les habitants de Myril, sont habités par un ancêtre qui leur parle continuellement, et pas forcément de façon très bienveillante, en leur donnant des conseils selon leur propre intérêt, en étant agi par des pulsions, la colère, la jalousie, l'avarice, la convoitise, etc. Et alors, parfois, on a l'impression que ces personnages, c'est vrai, sont schizophrènes. Ils ont deux personnalités, finalement, qui sont parfois antagonistes, comme c'est le cas pour Manacor. Elle est fort agacée par sa grand-mère qui vit en elle et qui ne cesse de l'embêter et de lui donner des mauvais conseils. Et en même temps, c'était aussi peut-être une allégorie de notre héritage, de l'héritage de nos ancêtres. On est tous habités par nos ancêtres, par nos parents, par nos grands-parents, par notre famille, et par au-delà notre communauté, la nation, etc. Enfin, on est agi par l'extérieur. Et parfois, comme c'est le cas de Manacor, bien on peut avoir envie ou croire qu'on a envie de faire des choses alors que ce n'est pas notre désir, mais celui des autres, celui de nos ancêtres. Et alors on peut s'en accommoder ou essayer de s'en libérer. Voilà, il y a peut-être cet aspect philosophique, un peu philosophique qu'il y a dans le bouquin aussi, où le poids des ancêtres, là, est mis en scène littéralement par ces chuchoteurs qui hantent les personnages.
Oui, et chez les nomades, il y a aussi un poids sociétal. Enfin, même s'ils sont plus libres, on sent qu'il y a toute une pression sociale, que les gens qui commencent à avoir du pouvoir, pas d'argent, mais enfin, qu'il y a des dérives du pouvoir. Toutes ces critiques de ce qu'on peut voir aujourd'hui, de gens riches et pleins de pouvoir, sont là, mais de manière très esquissée, quoi.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'un côté les bons nomades chasseurs-cueilleurs et les dégénérés de la ville. Non, non, en fait, je pense que les communautés humaines ont toujours été complexes et tiraillées par des pulsions, par des désirs. Et ça n'a sans doute jamais été facile, jamais été le paradis nulle part, à aucun moment de l'histoire, la longue histoire de l'humanité. Et donc oui, mes nomades aussi ont des problèmes de religion, ont des problèmes de préséance, de hiérarchie. Sauf que lorsque on rentre dans l'histoire du néolithique et d'une cité comme celle de Myril, ça s'amplifie. Et les hiérarchies deviennent encore plus dominantes, de plus terribles, et les souffrances s'accentuent. Et tout ce qui vient avec la communauté humaine plus importante, c'est-à-dire l'esclavage, le travail forcé, les maladies, etc. Bon, cela dit, ce n'est pas une histoire triste. C'est plutôt même, enfin j'espère, une histoire où il y a beaucoup d'humour, parce que justement, le dialogue incessant entre ces chuchoteurs tyranniques et leurs malheureux hôtes sont souvent l'occasion de moments comiques ou humoristiques. Et j'essaie quand même, dans mon histoire, de donner un ton, même s'il y a des passages dramatique et tragique, un ton relativement léger.
Ah oui, et puis on rentre quand même par le biais d'une histoire d'amour. Enfin, donc on est pas, on est, je trouve, on n'est pas du tout dans le drama. Et c'est aussi la force du truc, c'est de réussir à aborder des sujets complexes de société tout en étant très, parfois, enfin, de toute tout ce début d'histoire où elle veut absolument tout faire pour que son maître l'aime, c'est très drôle, puisqu'elle va aller faire des potions magiques. Enfin, on a plein de choses qui sont, ouais, très.
Oui, Manacor est un personnage en fait à la fois ingénu et par certains aspects, enfin, oui, comique, parce qu'elle est aux prises avec sa passion amoureuse pour son maître qui, par ailleurs, si on le voit de l'extérieur, a finalement rien de très attirant, hein. C'est pour elle qu'il est attirant, mais quand on le voit, c'est plutôt un bonhomme un peu bourru, colérique, pas très beau. Mais là, on est folle, folle et prise. Sa grand-mère essaie de la dissuader de son amour, mais de l'encourager à chercher le mariage pour des intérêts matériels, parce que la grand-mère est très intéressée. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a. Alors, on pourrait dire que c'est une aventure, que c'est un récit d'aventure. C'est aussi un conte philosophique, initiatique, avec, j'espère, de l'humour. Et j'espère, avec le désir pour le lecteur de tourner les pages, d'aller voir un petit peu tous ces décors que j'ai mis en place. Parce que j'ai, pour cet album, beaucoup travaillé sur la couleur.
Oui, il y a des superbes doubles pages et des grandes planches avec des décors. C'est
Merci.
dingue.
Oui, c'était important pour moi de donner beaucoup de force à la couleur et au contraste. Et puis, il y a un incendie gigantesque qui vient rompre le quotidien de cette ville de Myril, qui peut-être a un écho avec l'actualité de ce mois de janvier et ce qui se passe en Californie. Et c'est vrai qu'il y a un méga-feu, en fait, hein, qui pousse les personnages à sortir de leur routine, sortir de leur confort et aller vers une rupture dans leur mode de vie, dans leur mode de croyance et peut-être davantage de liberté.
Et est-ce que tu as déjà d'autres projets sous le coude, des envies, d'autres histoires à raconter, ou tu vas d'abord digérer celle-ci?
Alors, oui, je suis en train d'écrire, de terminer d'écrire une histoire qui cette fois-ci se déroulera plutôt dans le futur. Un futur proche, j'ai envie d'explorer, d'inventer de nouveau un monde, mais non pas 6000 années avant nous, mais une vingtaine ou une trentaine d'années plus tard. C'est en construction et voilà, alors c'est un long travail d'écriture d'abord et puis et d'image ensuite, parce que moi je commence d'abord par un long temps d'écriture avant que de pouvoir vraiment dessiner. Le dessin arrive lorsque j'ai déjà une histoire qui est bien armée.